Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio et le débat déjà commencé dans le studio 0826 300 300. On va parler de l'essence, on n'a pas eu le temps d'en parler hier. Craignez-vous un choc pétrolier? L'État doit-il agir pour contrer la hausse annoncée de l'essence? Ce matin, on a entendu plusieurs membres du gouvernement dire qu'ils étaient très attentifs. Également, le président de Total qui a dit qu'il était aussi très attentif. Donc, je ne sais pas comment ça va se manifester, mais en tout cas, l'essence risque bel et bien d'augmenter. Emmanuel Macron et l'immigration, on en a un petit peu parlé hier, mais on peut en reparler parce que ça agite quand même la majorité, et en particulier avec cette question de la réforme de l'aide médicale pour les étrangers. Dites-nous ce que vous en pensez. 0826 300 300. Pour débattre de ces sujets, Jean-Luc Touly, président du FRIC, le Front Républicain d'Intervention contre la Corruption.
Bonjour.
Serge Federbusch, bonjour. Vous êtes candidat à la mairie de Paris. Bonjour. Mathieu Alterman, journaliste, écrivain. Vous avez publié Femme fatale aux éditions Quai des Brumes. Et on vous retrouve tous les vendredis dans TPMP sur C8.
Oui, bonjour.
Et Alexandre Malafaï, président du think tank Sinopia. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour à tous. On va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons peut-être avec Jean-Luc.
Mon coup de gueule, c'est la République exemplaire, avec tout ce qui s'est passé la semaine dernière, les époux Balkany, avec non pas M. Balkany qui est en prison, mais sa femme qui est condamnée à 3 ans en ferme et qui donc assure l'intérim à la mairie. C'est voilà. L'affaire Richard Ferrand, où j'ai été avec mon association les premiers attaqués, mais malheureusement, on n'a pas pu continuer puisqu'on n'avait pas de parti civil, mais Anticor l'a fait.
On va continuer. Vous avez vu ce matin que le président d'Anticor était lui-même visé par une plainte pour conflit d'intérêts, en gros, puisqu'il est à la fois magistrat et donc on lui reproche d'être juge et parti.
Souvent, quand on est lanceur d'alerte, je viens d'être attaqué, enfin mon association, par Bernard Arnault, suite à une plainte qu'on a déposée sur sa fondation et le groupe Vinci. Voilà, donc il y a aussi Sylvie Goulard, qui, le jour où elle est nommée à la commissaire européenne, elle est quand même interrogée sur un remboursement qu'elle a fait, donc elle a avoué des emplois un peu fictifs. Donc ça n'a pas dû arranger Madame de Sernez et Monsieur Bayrou. Et puis Jean-Paul Delevoye, quand même, Jean-Paul Delevoye, 72 ans, s'occupe de la retraite à 72 ans, est-ce bien raisonnable? Et il cumule plus de 10 000 euros en tant que ministre, enfin en tant que haut commissaire, et il cumule aussi une partie de ses pensions de retraite. Donc tout ça donne un très très mauvais exemple. Et c'est pour ça que voilà, c'est mon coup de gueule, ça s'adresse à cette République exemplaire qui était celle de M. François Hollande et qui est celle de M. Macron.
Un mot, un commentaire?
Moi, je souscris entièrement à tout ce qui vient d'être dit. La fondation donc, de Bernard Arnault dans le bois de Boulogne, c'est un scandale incroyable avec des coûts de construction de 70 000 ou 80 000 euros par mètre carré de construction, indépendamment du prix du foncier. Et tout ça, au frais
de l'étonnement de la France, c'est un succès énorme.
S'il vous faut, alors je vais vous dire, cher monsieur, vous commencez très mal, parce que s'il faut dépenser 70 ou 80 000 euros par mètre carré pour construire un bâtiment pour faire rayonner la France, alors là, je pense que le budget de l'État, qui est déjà dans une situation désastreuse, eh bien, va se volatiliser.
Mais il l'a financé, on lui a pas payé un
musée. J'aimerais bien poser mon coup de gueule
on est obligé de recadrer un tout petit peu aussi sur Bernard Arnault, qui pour l'instant n'a pas été condamné.
Il y a d'autres sujets. Il est évident que Ferrand...
Oui, il a envie de le placer, en fait.
Exactement, il est évident que Ferrand...
Moi, je ne sais pas quelles sont vos relations avec Bernard Arnault. Encore une fois, c'est un des musées dont on n'a pas de relation particulière.
À 80 000 euros le mètre carré, d'ailleurs, c'est le musée de très très loin le plus cher au monde. On a fait le Quai Branly à un coût 15 fois moins cher, et ça n'empêche pas le Quai Branly d'avoir du prestige.
On ne connaît pas le sujet, donc on ne peut pas...
Moi, je le connais. Juste préciser, le Quai Branly, ça ne marche pas, contrairement à l'autre.
Mais
ça marche
vous racontez
moins.
N'importe quoi,
allez,
les plus belles
On va pas faire le débat là-dessus.
On dirait une certaine surfacturation par rapport au mètre carré. Et
à chaque fois, ça change de sujet.
Mais vous allez vous reprendre un procès, là, non?
Mais c'est pas grave, n'ayez pas peur. Bon, changeons de sujet. Le coup de gueule que je voulais pousser, c'est la fabrication de la candidature Villani. Moi, je m'intéresse beaucoup aux affaires parisiennes.
Oui, puisque vous êtes candidat.
Voilà.
la sous fabrication. Vous êtes indépendant.
Je suis d'union de toutes les droites. D'accord. Je suis soutenu par le RN. Je serai soutenu par d'autres partis de droite. D'accord. Et donc l'objectif, c'est d'offrir une véritable alternative à la déliquescence de la droite parisienne et en même temps d'éviter que les électeurs parisiens ne tombent dans le piège dans lequel les Français sont tombés la dernière fois. C'est-à-dire, vous n'avez pas d'autre choix que de voter pour une espèce de créature médiatique qui s'appelait Macron et dont maintenant on a une espèce de pseudopode à Paris qui s'appelle Villani. Bon, parce qu'ils ont lancé Griveaux, mais ça, la mayonnaise prend pas, il est extrêmement hautain, il n'est pas très bon. Donc maintenant, de fer au feu, boum, on nous fabrique Villani avec trois pages dans le Parisien dimanche, alors qu'il vient à peine de déclarer sa candidature, des sondages orientés.
On vous le présente comme candidat
de la société civile, et le Clampin, je suis désolé, à qui on présente comme ça des choix possibles, qui voit société civile avec quelqu'un qui arrive et qu'on présente de manière sympathique, avec un blitzkrieg médiatique en quelques jours dans toute la presse, eh bien, il a tendance à dire, après tout, pourquoi pas ? C'est comme Macron qu'on a lancé avec 60 couvertures de presse, d'accord, en à peu près deux mois, en 2016.
Oui, c'est de la jalousie, c'est de la jalousie.
C'est de la connaissance des manipes, des principes.
Écoutez,
si ça vous arrivait, vous ne crieriez pas un scandale.
J'ai bien fait de venir dans cette émission, parce que je sens que
vous avez un immense mépris pour le peuple, si vous pensez qu'il ne vote qu'en fonction de la manipulation des médias.
Mais la manipulation, mon cher monsieur, elle est constante depuis dix jours.
Villani, et
de tous les partis du monde.
Mais j'arrive à en dire un mot ou pas ? Non, mais je vais partir, moi.
Celle-là a été infernale, efficace.
Non, mais Villani est quand même pas présenté sous un jour extrêmement brillant. On le voit, on s'est moqué de lui quand il dansait, on s'est moqué de lui sur sa réponse. Enfin, les sondeurs, on avait, nous, le sondeur en plateau lundi, était extrêmement surpris du 13 ou 14% duquel il est crédité. On s'est moqué de lui en disant qu'il n'était pas crédible et il arrive à 14%.
Mais pas du tout. Ce qui s'est passé, au contraire, c'est que, effectivement, il s'est ridiculisé, couvert de ridicule. Moi, si on m'interrogeait sur la politique du logement et que j'étais même pas fichu d'annoncer trois mots...
Donc voilà. Bon, donc comment vous expliquez que les Parisiens adhèrent ?
Je serais complètement... mais catapulté, pulvérisé. Et ben alors, qu'est-ce qui se passe ? Immédiatement, il y a des contre-feux qui sont donc mis dans la presse pour dire « Oui, bon, voilà, c'est une forme d'originalité, il va s'améliorer, c'est un génie, de toute façon, il a eu la médaille Fields. Bon, Parisien, tranquillisez-vous, il est sympa, et en plus, il deviendra compétent. » Mais n'importe quel candidat qui aurait fait des boulettes pareilles aurait été définitivement enterré et crucifié.
Et surtout,
donc, on voit bien qu'il y a des forces de rappel qui masquent sa nullité.
Il y a un problème, c'est qu'il est quand même député de l'Essonne encore pendant 3 ans. Et dans sa circonscription, qui est tout à fait proche de la mienne, on ne le voit pas beaucoup. Donc il devrait aussi en tirer des conséquences.
Oui, on voit rarement les députés entre deux élections. Enfin, ce n'est pas nouveau non plus. Il faut dire les choses comme elles sont.
Et le
travail se fait aussi à l'hémicycle. On ne peut pas non plus systématiquement, en permanence, voir que le...
J'ai discuté avec certains sénateurs qui m'expliquent qu'ils sont aujourd'hui obligés de faire le boulot des députés qui ne sont plus dans leur circonscription.
Les députés ne sont plus dans leur circonscription. Et en plus, on a une nouvelle classe politique qui, pour le coup, est très jeune, qui n'a pas été bien préparée aux affaires. C'est le nouveau monde. Après, tout le monde s'en est félicité pendant des mois et des mois après l'élection d'Emmanuel Macron. Moi, j'attendais une classe politique. Ça ne se fabrique pas comme ça du jour au lendemain.
Alors, Alexandre, votre coup de gueule ?
C'est en fait un petit étonnement de voir finalement la façon dont les médias ont parlé de l'affaire Balkany après la condamnation et surtout la place qu'on accorde à Madame Balkany, au récit qu'elle fait de son séjour en prison, enfin, d'aller voir son mari en prison, de raconter par le menu justement ce que son mari réclame, des cornichons que le rabbin va lui apporter. Enfin, ça, c'est assez hallucinant. Il veut faire sa cuisine lui-même avec une petite tambouille dans sa prison.
Je veux bien
qu'il ait une cellule à part parce que c'est une personnalité. Mais à un moment donné, non, j'ai rien ni contre les cornichons ni contre les rabbins.
Je voulais quand même faire attention
à la radio. Mais je précise quand même que voilà, il y a un vrai deux poids deux mesures. Et là encore, pour continuer à aller dans le sens de ce que vous évoquiez, pour les Français qui sont concernés à la vraie vie, à la vraie justice, voilà, qu'on traite les gens correctement et c'est bien. Or, en prison, on les traite pas bien. Il suffit d'aller à Fresnes ou à Fleury-Mérogis pour se rendre compte à quel point c'est dur. J'ai eu la chance entre guillemets de visiter Fresnes. Je peux vous dire que voilà, à 3 ou 4 par cellule, c'est pas le traitement de Monsieur Balkany. Et puis voilà, Madame Balkany n'a pas besoin d'être reprise par les médias en boucle pour raconter ses histoires, le mal de dos de son mari et tout ça. Je pense que ça n'intéresse pas intéresse personne. Je trouve que tout ça tire le débat vers le bas, pour le coup. Je pense que c'est dangereux. Oui, mais ça fait partie d'une quantité phénoménale de sujets qui ne devraient pas rentrer dans le PAF, si je puis dire, le paysage audiovisuel français. Et on devrait s'intéresser intérêt. Et puis surtout, arrêter de. Voilà, on a l'impression qu'on veut en faire une héroïne maintenant.
Non, mais il y a un truc pervers. Je vais mettre un petit bémol à ce que vous dites, parce que le problème des médias avec les Balkany, c'est que c'est tout le temps excessif en tout. Alors là, c'est excessif, effectivement, dans la compassion, mais c'est excessif pour l'affaire en elle-même. Vous interrogez les gens, vous voyez les commentaires des gens sur les réseaux sociaux, les gens pensent que Patrick Balkany a détroussé l'argent public sur des milliards.
Enfin, c'est peut-être pas faux.
Mais non, c'est faux. Non, le juge l'a dit. Le juge l'a dit. D'ailleurs, ça fait partie du jugement. Il n'y a pas d'argent public. C'est dans le rendu du juge. C'est
sur une partie. Sur une partie, non, tout n'est pas terminé.
C'est quand, oui, c'est pas terminé, mais enfin, pour
on
l'instant,
pas quatre enfants
en
pour
cas,
rien.
L'affaire pour l'instant, c'est de la fraude fiscale. C'est pas bien, mais c'est de la fraude fiscale, le bien privé.
Oh, voilà. C'est quand même notre argent. À la fin, c'est l'argent des contribuables.
On sent une espèce de condamnation pour l'exemple. Et moi, donc, en tant qu'ancien élu local et qui aspire à le redevenir, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans cette affaire, c'est pourquoi Balkany reste extrêmement populaire.
Parce que sa ville est endettée à mort.
Non, il y a pas que ça. C'est un très bon maire.
Il y a de la dette. Mais simplement, bon, moi, je suis résident parisien, j'habite dans le 17e arrondissement, c'est crasseux dans le 17e alors que pourtant la ville de Paris est extrêmement riche, bien plus riche que le Valois. Je passe un pont pour rentrer dans le Valois qui est comme une limitrophe et tout est nickel. On peut mettre une nappe et faire son pique-nique.
Je voudrais juste rajouter une chose sur la dette.
Et ça, c'est quand même assez important. Donc, bon, tout
mais sur la médiatisation, sur la médiatisation.
Mais je pense que c'est rien du tout. On a mis ça en bon. C'est l'actualité qui cherche.
Il est trop flamboyant pour plaire. L'ancien maire PS de Clichy a fait pire, n'a jamais été inquiété. On a même retrouvé sa directrice de cabinet morte avec un flingue à la main dans les années 90. Et plus personne n'en parle. Je veux juste rajouter un truc sur la dette. Oui, il y a une dette, mais une immense capacité de remboursement. C'est ça le chiffre qu'il faut regarder. C'est la capacité de remboursement de la ville. Parce que la dette, c'est de l'investissement. Aujourd'hui, il y a quand même Lagardère qui est dans sa ville. Il y a L'Oréal. C'était une ville, il n'y avait rien. Il y avait des garages il y a 40 ans. Donc, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas que du négatif.
Là, on dévie du sujet.
Oui, il
ne
faut pas
toujours
dire uniquement la dette. C'est la capacité de remboursement.
Vous irez lui rendre visite en prison
Mais moi, je les aime beaucoup humainement. J'aime pas le Valois, mais humainement, ils sont des gens bien.
Mais juste une question, Alexandre, vous ne pensez pas quand même que des... Enfin, quand même, donc je prends position en disant quand même, mais qu'on ne pouvait pas mettre Patrick Balkany, comme Bernard Tapie, comme des gens comme ça, dans des cellules avec tout le monde, avec tous les autres détenus.
C'est ce que j'ai dit tout à l'heure en début. Je crois qu'en effet, il faut traiter les personnalités de manière particulière parce qu'il y a un risque de sécurité pour eux et qu'à un moment donné, on ne peut pas prendre ce risque-là et de les faire tabasser, d'avoir... Voilà, ça, c'est pas... Mais en même temps, on n'a pas besoin d'en faire trop et surtout, on n'a pas besoin de médiatiser ce qui va autour.
Vous oubliez un détail, c'est qu'il y a eu un mandat de dépôt. C'est la première fois qu'il y a un mandat de dépôt pour une affaire de fraude fiscale. Enfin, il y a un moment, c'est quand même... Ça n'est jamais arrivé toute l'histoire de la justice en France.
Je crois que c'est déjà arrivé. Je crois que M. Dupond-Moretti plaide bien, mais...
Oui, mais vous avez un phénomène d'engrenage.
Et vous avez aussi un phénomène un peu anonyme.
C'est rare. Vous avez aussi un phénomène d'engrenage où, à un moment donné, quand vous indisposez par trop un tribunal, et c'est vrai qu'il y a des postures des uns et des autres, y compris de M. Balkany et de sa femme, y compris de son avocat, à un moment donné, vous tendez la corde et les magistrats vous disent on va vous rappeler la justice, il y a des règles, on peut les appliquer, et là on les applique.
C'est sûr que Dupond-Moretti fait des plaidoiries plus pour se faire mousser parfois que pour vraiment défendre avec efficacité ses clients.
Mais on en parle aujourd'hui alors qu'il aurait dû. En tout cas, passé devant la justice depuis bien longtemps, mais grâce à un certain nombre de présidents de la République qui se sont succédés, il n'arrive que maintenant, alors que ça fait quand même des années, et que ce système-là, c'était le système qui a concerné un peu tous les partis, mais en particulier le RPR. Donc évidemment,
mais là, ça peut paraître
aujourd'hui,
pas un jour de prison.
Parce que des canailles sympathiques, il y en a dans le passé.
Pas un jour de prison.
Donc effectivement, il passe pour quelqu'un comme une victime. Alors de le mettre en prison ou pas, la question n'est pas là. C'est qu'il faut que ça s'arrête, quoi. Et évidemment, s'il se représenterait, peut-être qu'il repasserait.
Non, mais c'est certain.
Évidemment, malheureusement, moi qui lutte contre la corruption.
Mais de manière générale,
est-ce que vous pensez qu'Alain Carignan va se représenter à Grenoble? Mais là, il a dit qu'il se représentait à Grenoble, j'ai entendu avant-hier.
C'est lamentable.
Il peut être élu.
Juste une petite incise historique. Un des pires scandales de l'histoire de la République, ça avait été le trafic des Légions d'honneur sous la Troisième République à l'Élysée par le neveu du président de la République. Le président de la République a dû démissionner et l'instigateur du scandale s'est représenté quelques années plus tard et il a été réélu député sous les acclamations de la population alors que le scandale avait fait tomber le président de la République.
Ce qui n'est pas vrai dans d'autres pays, notamment en Angleterre ou dans les pays scandinaves.
Donc la France a une espèce parfois de rapport malsain à la condamnation pénale.
On se retrouve dans un instant et on prendra le temps de votre coup de gueule à vous Mathieu. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, on va parler du prix de l'essence. Vous êtes déjà nombreux à réagir, à nous dire que chez vous, ça a déjà augmenté. On va en reparler évidemment dans un instant. Mathieu Alterman, c'est un coup de gueule, pas du tout
C'est pas du tout politique, ça n'a rien à voir. C'est Apple va sortir son service de streaming, concurrent de Netflix.
Alors, streaming, c'est la vidéo à la demande.
Voilà. On paye par mois et puis on a un flux à volonté. Ça va s'appeler Apple TV+, ça sort le 1er novembre. Il y a Netflix d'un côté également. Et pendant ce temps-là, la France, il ne se passe pas grand-chose. On a annoncé un rapprochement entre France Télévisions et M6 sur un projet qui s'appellerait Salto. TF1 est dans le coup aussi. On pourrait voir Joséphine Ange-Gardien en replay, par exemple. Quel plaisir. Et je me dis, mais c'est quand même la France a le plus grand catalogue, un des plus grands catalogues de films au monde. On a des archives télé extraordinaires et on en fait rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on encourage le piratage. Si vous avez, je ne sais pas, 17, vous êtes adolescent, 16-17 ans, vous n'avez pas de carte bleue, si vous voulez voir, pour vous détendre, un De Funès ou n'importe quoi, un vieux film dont les droits ont été épongés, vous n'avez aucun autre choix que de le pirater ou de le garder sur un site de streaming illégal parce que l'offre légale est quasi nulle. Ouais. Et je me dis, mais quel gâchis
On n'est pas très, on n'est pas très bon. Moi, je vous racontais hors antenne ma vie, mais j'aurais voulu regarder une série anglaise en replay sur France Télévisions. Il n'y a pas de VO sous-titré.
Mais donc ça va plus loin que ça quand vous allez.
Insensé, alors que vous avez ça sur tous.
Mais c'est fou. Mais quand vous allez quand vous voyagez, vous allez sur Netflix dans les autres pays, vous avez accès à des centaines de films français dont vous n'avez pas accès quand vous êtes en France, parce que les maisons de production bloquent. C'est absurde, ils donnent de l'argent, en fait, ils donnent un truc pour se faire pirater.
Le tout avec des montants de subventions, évidemment, considérables. Ouais. Bon, et puis une redevance aussi, qui est quand même pas une spécificité française, mais qui ne court pas les rues dans les autres pays du monde.
Moi, j'avais un coup de gueule pour un chouchou, quelqu'un que les Français aiment bien, parce qu'il est beau, c'est Justin Trudeau. C'est-à-dire qu'à part le fait qu'il soit beau, Justin Trudeau, parce qu'il avait, pendant sa campagne électorale, une chanson qui s'appelle « One Hand Up ». En gros, « Levons les mains ». Et donc, il a voulu en faire une version française pour rendre hommage à la deuxième langue officielle du Canada et écouter ce que ça donne. C'est totalement incompréhensible. La traduction donne « enlève une main haute pour tout main, enlève une main haute, osez-toi ». Donc je trouve que c'est une insulte aux Québécois, c'est une insulte.
Oui, enfin, ça ressemble beaucoup aux Français qu'on entend dans certains collèges aujourd'hui.
Oh non, c'est pas de sens.
Il y avait une chanson française qui existait dans les années.
De l'avance.
Il y avait une chanson française qui existait dans les années 80, qui était oh les mains, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur.
Oui,
ça existait.
Oh les mains, ça veut dire quelque chose. Là,
non, mais ils auraient dû reprendre cette chanson à la limite.
Donc voilà. Donc Justin Trudeau est nul.
C'est dit.
Voilà, ça c'est dit. Beaucoup de réactions quand même à votre coup de gueule, Jean-Luc. Les hommes politiques ont des problèmes avec l'argent. Je croise un conseiller régional de ma région qui m'explique qu'il faut une conférence sur le climat. Il me dit c'est gratuit, c'est payé par la région. Les mairies, c'est pareil, c'est gratuit. Voilà, donc beaucoup sur l'argent public.
Mais François Hollande avait dit ça un jour. Il avait dit, attendez, c'est l'État qui paye, ça ne coûtera rien à personne.
Ouais, bien sûr.
Ouais. Et puis Pierre nous dit, Ferrand, Benalla, Bayrou, Goulard, pour un pouvoir exemplaire, Macron pourra repasser. D'autres nous disent que l'affaire Ferrand, c'est pour masquer, que l'affaire Balkany, c'est pour masquer Ferrand. C'est vrai que M. Ferrand est toujours président de l'Assemblée nationale.
Ouais, ça, c'est un scandale réellement
majeur.
Mais
c'est un petit peu retour. Enfin, il n'y a pas eu de. Comme il y avait eu pour. Alors, c'est vrai qu'il y avait les homards, on parlait de l'effet médiatique pour M. Drugy, ça a occupé beaucoup les médias, là, on n'en parle plus.
Oui.
Mise en examen.
C'est vrai que l'actualité, un sujet chasse quand même l'autre.
Et puis le sujet est quand même très lourd. Hein. Une mutuelle dont le directeur paye un local. En fait, de telle manière que ça ne coûte rien à celui qui est en fait au propriétaire qui lui loue, c'est quand même, moi j'étais directeur d'une entreprise, je me serais caché sous un tapis plutôt que de même envisager de faire un truc pareil, quoi. Ouais. Parce que c'est quand même de l'abus de confiance évident. Enfin, ça,
et de l'abus de pouvoir.
Voilà, allez, on va parler de l'essence. Déjà, au mois d'août, on avait remarqué que les prix de l'essence et du gazole avaient augmenté et les tarifs à la pompe donc, pourraient flamber dans les prochains jours. En raison de la hausse des cours du pétrole et de ce qui s'est passé en Iran avec l'attaque d'un drone d'installation pétrolière. Donc on entend des voix très rassurantes. J'ai entendu ce matin du gouvernement dire « mais on fera très attention », etc. L'association Que Choisir appelle le gouvernement à supprimer l'une des taxes sur le carburant. L'association de consommateurs a lancé ce matin une pétition pour demander donc, la suppression des taxes flottantes. Donc, qu'en pensez-vous? Le gouvernement a dit que pour l'instant, il n'est pas question de toucher à ces taxes et demande aux pétroliers une modération. Donc, est-ce qu'on peut faire confiance aux pétroliers? Vous y croyez? qui veut répondre.
En tout cas, le sujet est explosif, parce que c'est ce qui a quand même mis le feu aux poutres l'an dernier avec les gilets jaunes. Donc là, si tout d'un coup, on a une flambée des prix du pétrole à la pompe, et que les Français trouvent que ça devient insupportable, même si c'est irrationnel, parce qu'au bout du compte, il y a des logiques de marché qu'à un moment donné... Voilà. Mais après, si à chaque fois le gouvernement doit compenser, avec quels moyens? Parce qu'il va opposer, c'est la posture qu'il prend, le fait qu'il a besoin de faire aussi rentrer des recettes dans les caisses de l'État. Le sujet est compliqué. Alors après, est-ce qu'on va vers un choc pétrolier? Moi, je suis mitigé. Ce qui m'inquiète plutôt, c'est le risque d'enchaînement, l'effet domino dans deux domaines, soit sur un problème géopolitique, sur place dans les pays du Golfe, parce que ça peut à un moment donné déraper. On peut imaginer qu'il y a beaucoup de raisons derrière tout ça, que les Américains ne feront pas n'importe quoi, mais on sait que M. Trump a aussi le sang chaud, il l'a montré, et ça peut partir. Et l'autre problème, en revanche, c'est que comme ça dérègle quand même l'équilibre, si je puis dire, du système financier international, ça peut avoir par effet domino des répercussions sur les marchés boursiers, et ça peut précipiter une crise financière qu'on attend à un moment ou à un autre, et ça peut être un élément déclenchant comme un effet papillon, en fait, à quelques années.
Alors, sur ce sujet, effectivement, on peut se demander pourquoi un drone peut avoir, vous voyez, une attaque comme ça, même si c'est en champ de pétrole, a de tels effets. Oui. Je crois qu'il faut voir dans quelle situation le système financier international est aujourd'hui. On est dans une espèce de pyramide de Ponzi. Il y a une association de malfaiteurs qui sont en fait les banquiers centraux des États-Unis, d'Angleterre, d'Europe, du Japon et de la Chine, qui depuis à peu près 8 à 10 ans tiennent le système économique mondial par l'émission de monnaie de singe, par le rachat à 0% d'intérêt des dettes publiques. Et c'est comme ça que depuis... En fait, 8 ou 10 ans, l'économie mondiale tient. Et le problème, c'est que ensuite, comme c'est véritablement fragile, c'est un château de cartes, une pichenette peut, à un moment ou à un autre, renverser la chose. Et donc, si les prix du pétrole montent trop, l'inflation masquée, vous voyez, sous-jacente, qui est liée à cet excès de création de liquidité monétaire, c'est un peu technique, mais cette espèce de planche à billets de monnaie de singe internationale va se voir, les pouvoirs d'achat vont être réduits, les gens vont souffrir immédiatement, et donc ça peut entraîner par effet de chaîne, effectivement, une espèce de crack, parce que l'inflation pétrolier qui est masquée du fait des politiques de banque centrale va apparaître au grand jour. Et donc, cette petite pichenette peut avoir des effets dévastateurs, c'est sûr.
Allez, on se retrouve dans un instant, 0826 300 300. Est-ce que vous avez déjà constaté, vous, une augmentation à la pompe? On y revient dans un instant sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, le débat continue, 0826 300 300. Craignez-vous un choc pétrolier? Comment réagirez-vous si l'essence augmente? L'année dernière, on l'a dit, c'est ce qui avait déclenché le mouvement des gilets jaunes. Est-ce que l'État doit baisser ses taxes, supprimer les taxes, comme le demande l'UFC Que Choisir? On en parle avec Jean-Luc Touly, président du FRIC, le Front Républicain d'Intervention contre la Corruption. Serge Federbouch, candidat à la mairie de Paris, candidat Rassemblement des droites, c'est ça? Oui. Mathieu Alterman, journaliste, et Alexandre Malafaye, président du think tank Sinopia. On a Jean de Longjumeau qui est en ligne avec nous. Bonjour Jean.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous avez remarqué une augmentation du prix de l'essence déjà?
Non, parce que j'ai pas mis d'essence depuis un petit midi, j'en ai quatre.
Ah bon, d'accord.
Mais j'en ai quatre petites, donc plus un scooter et une trottinette électrique.
Ah bah. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire alors sur ce risque d'augmentation du prix de l'essence?
On va attendre de savoir s'il y a un risque. C'est ce que je trouve étonnant, c'est que on a eu à une époque où le carburant était pas cher du tout. On avait le gasoil à 1 euro, et l'augmentation du gasoil a été due aux manifestations de la CGT des transporteurs. Et personne n'a été cassé la gueule à la CGT parce qu'on avait la chance d'avoir un gasoil à 1 euro. Et grâce à leurs manifestations et leurs problématiques sur la route, ils ont fait grimper le prix du gasoil. Et ça a choqué personne, alors que c'était juste dû à une manifestation. Et puis après, c'est resté bloqué au prix de la manifestation. Bon, là, aujourd'hui, je sais pas. Moi, écoutez, je pense que c'est... Les Américains, c'est un peu comme l'Irak. Ils vont nous sortir des trucs extraordinaires sur l'Iran parce qu'ils ont envie de leur remettre un coup sur le nez, j'ai l'impression. Et parce que ça date du Shah d'Iran, ça date d'un tas de trucs... Et ils vont trouver tous les prétextes comme à l'époque de Bush où on n'a jamais trouvé d'armes de destruction massive en Irak, mais on a été mettre le bazar là-bas dans un pays Et on en voit les conséquences aujourd'hui. Donc c'est vrai que
merci. Vite, hein. Merci de votre appel, Jean. Alors,
je veux quand même juste réagir. La différence, c'est que l'Iran avoue volontiers, ne cache pas. Enfin, contrairement, voilà, c'est pas la même chose que l'Irak. En revanche, on parle pas du tout de l'Asie, parce que le choc pétrolier en France, je n'y crois pas, moi, pour ma part. En tout cas, ce sera pas du tout 73 le retour. Mais c'est l'Asie le problème, parce que l'Asie est dépendante du pétrole de cette région à peu près 77%, 78%. Et donc, on va avoir une revanche de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, puisque la première manche, plutôt, ça a été gagné par les États-Unis, mais ça va changer.
Oui, mais là, concrètement, il va y avoir une augmentation. On voit bien qu'à chaque fois qu'il se passe des choses...
Ça va rebaisser. Après, ça va être un truc... Ça va être une mini-augmentation et puis une baisse légère. Après, ça va... voilà, c'est fini le spectre de la peur du grand choc pétrolier en Occident. J'y crois pas une seconde.
C'est parce pas évident. C'est pas, plus... c'est pas, on n'en est pas
Il y a beaucoup plus de producteurs de pétrole qu'avant. Si on pouvait
l'acheter dans beaucoup plus d'endroits.
Il y a le pétrole de schiste américain.
Il y a une demande
très forte
pour les produits pétroliers qui baisse en Occident. Qui augmente en Asie et qui baisse en Occident.
Enfin, il y a une demande très forte. C'est un marché mondial pour les produits pétroliers. Ça sert à toutes sortes de choses. Et pas très loin, pas que les moteurs à combustion, ça servait beaucoup en chimie aussi, et donc je crois qu'il y a un vrai problème. Et puis le problème Iran-Arabie Saoudite, qui se traduit essentiellement en ce moment par un conflit à travers au Yémen, c'est un vrai sujet, c'est un vrai souci, parce qu'un jour ou l'autre, ils peuvent se mettre l'un sur l'autre. Il ne faut pas quand même oublier que 80% des ressources pétrolières d'Arabie Saoudite sont dans des zones chiites qui, en fait, d'une certaine manière, sont à l'écoute de l'Iran. Et le jour où l'Iran veut vraiment réveiller les chiites d'Arabie Saoudite, eh bien là, vous avez un conflit majeur. Pour moi, avec le Pakistan et l'Inde, c'est les deux sources possibles de vraie Troisième Guerre mondiale, vous voyez, et de vraies divergences du système.
Ouais. Alors,
c'est
Jean-Luc,
sérieux.
Jean-Luc,
je voulais en partie dire exactement ce que tu viens de dire et rajouter que j'ai fait partie à un moment du mouvement des Gilets jaunes et qu'effectivement...
Bravo. Vous êtes toujours gilet jaune.
Oui, jaune et citoyen en l'occurrence. Qu'effectivement, la multiplication des augmentations, des problèmes des élites politiques qui sont quand même aujourd'hui... Alors c'est le calendrier qui fait qu'il y a une pléthore de gens. Et là, dans les discussions qu'on commence à avoir entre différents mouvements de gilets jaunes, et je ne parle pas de ceux qui sont dans la violence... Hein, c'est de dire peut-être qu'il faudrait organiser quelque chose par rapport aux élites politiques sur les problèmes de corruption, de conflit d'intérêts, parce que ça grève en plus.
Qu'est-ce que ça vient faire dans le prix de l'essence ?
Le prix de l'essence pourrait justement en rajouter une dose, puisque c'est de là que c'est parti il y a à peu près un an, et que je pense que là, ça peut partir, je ne veux pas faire de pronostic, mais en tout cas, dans les différents réseaux dont je fais partie, ça commence à monter sérieusement. Donc c'est la petite goutte d'eau qui était déjà bien préparé. Mais... Et en plus, on vient d'avoir le résultat, enfin, partiel, peut-être pas total, des élections israéliennes. Et il semblerait que Benyamou veut continuer à annexer, etc., etc. Donc tout ça, c'est une poudrerie entre l'Arabie saoudite.
Netanyahou va pas pouvoir former un gouvernement.
Mais il veut par tous les moyens. On ne connaît pas le résultat final. Hein.
Non, mais pour l'instant,
il va avoir du mal.
On sait quasiment sûr qu'il ne va pas pouvoir former un gouvernement. Au contraire,
il veut s'allier avec les religieux. Mais bon, est-ce qu'il va y arriver? On va voir.
Non, non. Alors, on a Gérard en ligne avec nous. Gérard, bonjour.
Oui, bonjour. Eh ben, écoutez, moi, j'ai la preuve qu'en France, on n'arrête pas de râler. On vient d'entendre ce monsieur qui soutient les gilets jaunes. Mais moi, je peux dire que l'augmentation du gazole, je ne l'ai pas constaté. Je l'ai fait le plein hier à 1,42 €. Et en revanche, je viens de 15 jours en Italie. Et en Italie, il est à 1,60 €. Alors, on pourrait penser qu'en Italie, on taxe quand même plus qu'en France. Donc, et puis, alors, il y a un autre truc qui m'a surpris. C'est que, étant un peu économe, j'ai voulu repasser le col du petit Saint-Bernard pour aller à La Rosière en espérant avoir le gazole moins cher. Et à La Rosière, il est à 1,64 €. Alors je ne comprends pas pourquoi. Enfin bon, c'est une illustration sympathique du prix du gazole. Que ça fasse remonter les gens qui râlent, ce n'est pas étonnant.
Bah oui, ce que vous êtes nombreux à nous dire, ça augmente, tout augmente. Myriam nous dit en Ardèche samedi 1,399 €, le 17 1,429 €, donc 0,030 € d'augmentation au litre. Et ma pension d'invalidité, elle n'a pas augmenté.
Sur les autoroutes de Vinci, c'est plutôt 1,60 à 1,70. Hein.
Ouais. Et il y a un problème pour le budget de l'État, parce que s'ils veulent neutraliser ça, déjà qu'ils laissent les déficits courir, parce que Macron a décidé de lancer sa campagne pour 2022, et donc ils laissent les déficits courir. S'ils veulent compenser ça par une baisse des taxes, pour que ça soit relativement indolore pour les automobilistes ou les gens qui prennent leur moto, eh bien, ça va très vite, hein, parce que la taxe maintenant, bon, ça a changé de nom, la taxe sur les produits pétroliers, Bon, c'est un rendement considérable.
C'est des milliards d'euros.
C'est l'équivalent de l'impôt sur le revenu. Et donc, si ça baisse de 5 ou 10%, tout de suite, ça va dégrader le déficit de l'État. Et donc, ils ne peuvent pas trop jouer trop longtemps dans cette situation.
Ouais. On a Patrick de Biarritz. Bonjour, Patrick.
Hey, bonjour.
Oui, on vous écoute.
Ah ben moi, je suis... Je sais pas si je suis novateur, mais j'utilise pas d'huile de, j'utilise pas de carburant pour ma voiture, mais elle marche quand même très bien.
Alors vous mettez quoi ?
Vous la poussez ?
Et non, je mets de l'huile de friture qu'on collecte dans les restaurants. Et c'est l'avantage, c'est que d'abord c'est un déchet, en plus c'est local, produit localement, c'est renouvelable, et en plus c'est pas sujet aux fluctuations du pétrole.
Ah oui, et votre moteur, il est adapté à ça ? Comment ça se passe ?
Ben en fait, Monsieur Diesel a créé des moteurs qui fonctionnent. Pas au pétrole, mais bien à l'huile. Puisqu'à l'époque, ça n'existait pas.
Donc, l'huile de friture, ça fonctionne.
Ça a toujours fonctionné. On ne vous l'a pas dit, mais ça marchait déjà.
Ben on va il faut la retraiter légèrement. Mettez pas votre huile de friture directement dans votre réservoir.
Il faut la retraiter un petit peu, non ?
Non, ça marche à l'huile vierge, mais autant pas concurrencer l'alimentation. Ouais. Et donc, recycler, valoriser, il faut la filtrer un peu au départ.
Un petit peu quand même.
Est-ce qu'il faut mettre de l'huile bio ?
Le paradoxe, c'est que ça marche dans les vieux véhicules qui sont censés être ceux qui polluent le plus, mais du coup, c'est ceux qui polluent le moins, puisque c'est 40 fois moins polluant.
Donc vous dites, voilà, c'est la solution, c'est de changer de carburant. Quoi.
On va acheter des actions Le Sieur.
Et c'est vrai, c'est ce que nous dit un auditeur, ce qui est incroyable, c'est quand le pétrole baisse, il faut un temps pour que ça baisse, alors que quand ça monte tout de suite. Et ça, c'est vrai qu'on le remarque à chaque fois. Ouais. Je voudrais qu'on parle de l'AME, donc le gouvernement qui pourrait s'attaquer à l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État, ça concerne les sans-papiers, qui ont droit à l'accès aux soins. On en est à 1 milliard d'euros. Donc, on l'a vu avant-hier, Emmanuel Macron a décidé d'ouvrir un débat sur les questions d'immigration. Donc là, tout le monde tombe un petit peu de l'armoire en disant « Pourquoi donc ?» Il a découvert... alors, c'est quoi ? Ce sont des remontées du terrain ? C'est
5 mois
des élections municipales. Hein, mais en tout cas, il veut un réajustement de l'aide médicale d'État, ce budget qui aide donc ces personnes à se soigner. Est-ce que qu'est-ce que vous en pensez ? On a entendu dans la première heure le coup de gueule d'André Bercoff sur le sujet.
Je trouve ça un peu lamentable. C'est l'ancien monde, quoi. Vraiment, on est dans la politique politicienne, en dehors du problème de fond, hein, bien évidemment. Mais d'utiliser ça comme, effectivement... à la fois pour les élections municipales et aussi pour les élections présidentielles.
Là, vous parlez de l'enjeu politique maintenant.
Oui, d'en faire un grand débat, de faire un débat.
Mais sur le fond, il n'y a pas de sujet.
Mais pourquoi le mettre maintenant ? Hein ? Pourquoi j'apprends tout à l'heure que le 78 et le 91, les deux départements, vont être fusionnés, si ce n'est pas un rapport avec les élections municipales ? Hein ? Donc tout ça est de la politique politicienne, et je trouve ça lamentable, alors que sur le fond, c'était un vrai sujet.
Oui,
c'est...
alors...
Comme vous
voulez. Allez-y,
c'est
alors, Mathieu.
Parce qu'en général, on dit que les débuts de mandature sont plutôt
durs,
à droite,
plus durs, ouais,
et vont vers la gauche. Et là, on a l'inverse, en fait, ce qui le rapproche un peu de Giscard. Un peu, c'était un petit peu ça, d'ailleurs. Giscard a eu un début de mandature beaucoup plus centre-gauche, puis c'est un peu durci.
Pas vu le début de la gauche.
Je
parle de Macron.
Mais en principe, on dit que
lui, c'est l'exception.
Et lui n'est pas. Donc, bon, effectivement, il y a un but électoral, mais en même temps, on ne peut pas laisser certains sujets uniquement aux mains du Rassemblement National. C'est une réalité. C'est-à-dire que c'est pas. Il faut appauvrir. Et concernant l'AME.
Mais enfin, jusqu'à maintenant, ça n'existait pas. On voit les tweets d'Aurélien Taché.
Sur l'AME, il y a quand même.
Qui dit c'est pas un sujet et qui d'un seul coup.
Enfin, lui, vous savez très bien, est excessif dans l'autre sens. Sur l'AME, il y a un vrai sujet autre que financier, puisque ça coûte énormément d'argent. C'est qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui ont des maladies que les jeunes médecins ne savent même plus soigner en France, notamment la tuberculose, tout ça. Donc il y a un vrai problème d'efficacité je parle même pas de l'aspect financier.
C'est le fond du problème, c'est d'abord l'aspect
financier. Mais au-delà de ça, ça coûte cher et ça marche pas. Je voudrais dire deux choses
sur le sujet. D'abord, évidemment, c'est de la démagogie pure et simple de la part de Macron. Macron est celui qu'il y a encore quelques semaines annoncé que la France allait être le pays qui accueillait le plus de migrants, de clandestins sur les bateaux qui les amènent, vous voyez, de manière régulière en Sicile ou ailleurs, ou en Espagne. Donc, il a une politique en réalité immigrationniste. Il a la conviction profonde que finalement, En fracturant le peuple, bon, c'est ce qui s'est passé pendant les Gilets jaunes, c'est un peu une espèce de candidat Terra Nova là-dessus, Macron. Eh bien, en fracturant le peuple avec des gens qui, finalement, sont moins enclins à faire valoir leurs droits et leurs droits civiques au départ, il va pouvoir mieux gouverner, mieux régner. Il pense que les Français, pour beaucoup d'entre eux, sont des fainéants. Et donc, il utilise ça. Il n'y a jamais eu autant de permissivité sur l'immigration clandestine que depuis Macron. Mais il se rend compte que c'est pas... Les gens vont peut-être justement le réaliser, c'est pas porteur, il y a un vrai mécontentement. Et pof, il change son fusil d'épaule, et là, de manière purement verbale, hein, c'est le service des lèvres, hein, comme disent les anglo-saxons, eh bien, il se découvre tout à coup préoccupé par les questions migratoires. La réalité, c'est que tout ce qui favorise l'immigration clandestine, d'accord, et quelque chose que la France doit combattre.
Mais là, l'AME, est-ce que ça favorise l'immigration ? Est-ce que c'est
évidemment, vous vous faites soigner à l'œil quand vous avez n'importe quelle pathologie, vous arrivez à entrer en France. L'AME, ça s'adresse aux clandestins essentiellement.
Hein, il y a la CMI,
voilà, c'est les clandestins, les sans-papiers, ce sont les clandestins, c'est-à-dire des gens qui violent nos lois. Ce sont des gens qui violent nos lois. Bon, sur le séjour en France. Ils violent nos lois, ils arrivent en France et ils se font prendre en charge intégralement pour n'importe quel type de pathologie, même parfois des pathologies de confort, à la charge des contribuables français via la sécurité sociale. C'est donc un scandale, ça coûte de plus en plus cher. Ce sont des dépenses qui vont en augmentation de plusieurs centaines de millions d'euros par an. Il faut certainement y mettre un terme, mais cela dit, la façon dont Macron se saisit du problème aujourd'hui, c'est de la pure démagogie.
Il y a la forme et le fond, effectivement. Pourquoi maintenant, Alexandre Malafaï ?
Pourquoi maintenant ? Parce qu'en fait, il est en train d'installer le débat. Il a la chance d'être le président de la République. Donc, le président peut plus facilement mettre des débats sur la table et organiser, si je puis dire, le débat public à sa main. Et ça l'arrange de l'organiser à sa main. Évidemment, la confrontation avec Marine Le Pen, avec le Rassemblement National, sur des sujets qui sont des sujets de fond. Il a bien posé le problème, hein, en disant finalement les bourgeois ne sont pas concernés, c'est les gens des quartiers, c'est les classes ouvrières populaires qui sont concernées par les problèmes migratoires.
Il le dit, s'adresse en
exactement,
disant ça.
Il dit quelque chose qui est quand même une réalité, qui n'est pas généralisée, mais enfin qui est une réalité pour beaucoup de Françaises et de Français. Donc là, il touche évidemment un électorat qui dit tiens, on va peut-être s'occuper de moi, et il organise le débat avec Marine Le Pen. C'est ce qu'il souhaite, hein. Le reste ne l'intéresse pas, parce que c'est dans cette configuration-là qu'il peut être le plus efficace, y compris sur les municipales, mais surtout ce qui l'intéresse, c'est 2022. Après, sur le débat lui-même, sur l'AME, évidemment, il y a un sujet budgétaire. Et là, si je puis dire, l'inspecteur des finances, Emmanuel Macron, est forcément quand même en train de regarder ce qui se passe à ce niveau-là, parce que ça coûte très cher. Et le problème en même temps, c'est le problème humanitaire. C'est que la réalité est là. Et que quand les gens se présentent dans nos hôpitaux, compte tenu en plus de nos valeurs, c'est difficile de dire non. Mais c'est vrai qu'on a créé un système qui procède comme un appel d'air. C'est-à-dire que le système français, on le sait bien, tente, en tout cas, motive beaucoup de gens à tenter leur chance, alors dans des conditions parfois très périlleuses, mais pour venir chez nous, sans que ce soit lié à une situation d'exil politique ou autre chose, mais simplement, c'est de migration économique.
Moi, je trouve que vous avez un discours de capitulation. Je suis désolé, on doit pouvoir refouler.
Non, attendez, pardonnez-moi. Je ne dis pas ça. Pardonnez-moi. Excusez-moi. Je n'ai pas dit ça. Je dis que c'est très difficile. Après, quand en même temps qu'on essaie de trouver une façon de rendre ce système moins attractif, mais de manière générale, pour que finalement la tentation de franchir la Méditerranée pour venir chez nous ou de venir des pays de
la ME et puis ça
sera moins. Mais vous pouvez pas la supprimer comme ça.
Il y a une réalité humanitaire.
Mais c'est là où je vous dis que vous êtes capitulationniste.
Mais ils ne viennent pas. Enfin, il y a un côté un peu caricatural à dire qu'on vient pour se faire soigner en France. Je crois que ça, c'est une infime.
Pas du tout.
Ce que disent les médecins dans les hôpitaux, c'est un article de La Croix qui explique que la plupart des gens qui se font soigner ont le sida, la tuberculose, viennent pour des accouchements ou des hémodialyses, qui sont des maladies chroniques pour la plupart. Donc, si ça poserait un problème de santé publique si on les soigne pas. Ben, ils vont rester dans la rue, la tuberculose va continuer.
On peut les prendre et les expulser, ils n'ont aucun titre.
Mais vous savez très bien qu'ils ne sont pas expulsés.
Mais ça, c'est justement un discours de résignation.
L'AME, c'est le petit bout de la lorgnette.
L'Arabie saoudite, ou des tas de pays arabes, expulsent tous leurs clandestins. Il n'y a aucun clandestin musulman en Arabie saoudite. Et la France ne pourrait pas le faire. Il faut arrêter.
Ils les expulsent dans le meilleur cas de figure. Parce qu'en général, on ne va pas prendre comme exemple l'Arabie saoudite non plus. Vous oubliez un détail. Emmanuel Macron, il est fédéraliste. Il est pour une Europe fédérale. Il a repris un leadership un petit peu européen. Ce qu'il veut tout simplement, et je pense d'ailleurs qu'on va forcément vers ça, on va vers une Europe fédérale, qu'on soit d'accord ou pas avec ça, avec une politique d'immigration et sécuritaire très dure,
puisque d'ailleurs on voit dans tous les pays européens les gens souhaitent la même chose, et une politique sociale et sociétale assouplie. Et il veut avoir le leadership d'un futur qui sera Sam, qu'on soit d'accord ou pas, ce sera comme ça. Parce que le seul moyen d'avoir une politique immigratoire forte et puissante, c'est avec plusieurs pays, pas avec un seul. Ça ne marchera jamais.
Moi, je pense que c'est de la communication et de l'enfumage, parce qu'il y avait le dossier de la retraite juste avant. Il y avait les mises en examen, etc. Et d'un seul coup, on sort la drogue. À Marseille, c'est beaucoup de publicité, beaucoup de communication, et en réalité, les moyens ne sont pas mis. Donc, c'est un vrai sujet, soit. Il y a le côté humanitaire qu'il ne faut pas mésestimer. J'entends ce que vous dites aussi.
Oui, il fait semblant d'être
mais
de droite.
Mais pourquoi on sort élections, maintenant c'est ben parce que c'est un contre-feu.
Politique.
Et, on est, et c'est très politique à la veille des municipales. Et c'est ça qui est lamentable, parce que ça mériterait un vrai débat.
Pas spécialement fédéraliste, et sur ces sujets, bon, les opinions publiques européennes, moi je pense que Salvini finira par gagner en Italie, parce que les bistouilles avec des alliances à eux et à Dia, ça ne fonctionnera pas, et ils auront beau faire tout ce qu'ils veulent, par exemple s'asseoir sur les règles budgétaires, ils veulent augmenter la TVA, ils ne le feront pas, ils s'affranchissent de toutes les règles dès lors qu'il s'agit de protéger les pions du système oligarchique, eh bien ça ne marchera un temps, mais ça ne marchera pas éternellement, et effectivement, n'importe quelle pichenette pour faire la synthèse de tous les sujets, comme celle sur le prix du pétrole, ça peut abattre ce système.
Allez, voilà. On se retrouve dans un instant, on continue ce débat sur l'aide médicale d'État. À tout de suite, 0826 300 300, on est avec vous sur Sud Radio.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, faut-il réformer l'aide médicale d'État, celle qui permet aux sans-papiers d'avoir accès aux soins? On en parle avec vous, 0826 300 300. On a Sébastien en ligne avec nous, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour Valérie, vous allez bien?
Ben, très bien, et vous? Vous nous appelez d'où, Sébastien?
Là, je suis en Allemagne actuellement, comme je suis conducteur routier, mais sinon j'habite à Étampes dans le 91.
Bon, et vous arrivez à nous capter en Allemagne?
Bah oui, là je suis en Allemagne, j'ai un bon opérateur et ça fonctionne vraiment très très bien.
Très bien. Bon, alors dites-nous ce que vous vouliez nous dire.
Il y a Internet
en
Allemagne, Valérie. Hein.
Oui. Oui, c'est vrai. Ben,
Alors, je voulais dire que je suis un petit peu partagé vis-à-vis de l'AME et de la politique migratoire, parce que je voudrais à la fois aider.
Ouais.
Et à la fois, je voudrais qu'on aide un peu moins, parce que je trouve que plus d'un milliard d'euros par an en aidant des étrangers, je trouve peut-être
c'est
pas tolérable. Alors, je pense qu'il faudrait évidemment soigner ceux qui sont très malades, mais où est la limite? C'est quand on dit stop? Est-ce qu'on est obligé de dire oui à tous? Et deuxièmement, ils payent rien, ces gens-là. Donc, à la limite, est-ce qu'on ne peut pas déjà les faire payer? Et puis, dès qu'ils se mettent à bosser un peu, nous rembourser une petite partie. Déjà, faudrait faire ça.
Le problème, c'est qu'ils n'ont pas, pas de salaire, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas de papier. Donc, par principe...
Je sais bien. Ouais. C'est pour ça qu'il faut qu'ils commencent à travailler. Dès qu'ils commencent à travailler, ils nous remboursent. Et petit à petit, même 2, 3, 4, 5 euros, tant pis par mois. Mais au moins qu'ils donnent quelque chose, parce que ce n'est pas gratuit. C'est les Français qui payent.
Oui.
Excusez-moi, je vais finir juste là-dessus, c'est par rapport à la politique migratoire, parce que ça va avec. Je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus accueillant avec les réfugiés, ceux qui ont vraiment besoin d'un asile politique. Par contre, il faut être intransigeant avec ceux qui trichent, ceux qui sont venus sur le territoire illégalement et les réexpulser. Vous voyez, on fait dans la demi-mesure, et à chaque fois qu'on ne tranche pas, eh ben, ça donne des situations où on est actuellement, où les Français sont en colère parce qu'on ne tranche pas. Il faut trancher, taper du poing sur la table, dire à l'Europe, nous on fait comme ça, et si ça ne vous fait pas, tant pis pour vous. Et si Macron, il a compris, ça y est, je pense qu'il a saisi quelque chose, je pense qu'il a compris que les Français n'étaient pas xénophobes, mais en avaient ras-le-bol de payer pour d'autres, et avaient surtout et besoin de solidarité.
Ça pouvait avoir un effet électoral, oui, c'est ça, on a compris.
C'est ce que merci Alexandre, merci Sébastien, c'est effectivement ce que vous nous dites, mais beaucoup nous disent, moi je n'ai pas les moyens de me soigner, je n'ai pas de mutuelle, je n'ai pas les moyens de me soigner, donc pourquoi est-ce qu'on aide ces gens
C'est intéressant ce que dit ce monsieur, il a raison, il faut pas aider, faut pas aider moins ni aider plus, faut aider mieux en fait, faut que ce soit efficace. Le problème, et on revient toujours à ça, c'est a-t-on les moyens financiers, l'État a-t-il les moyens de réellement enquêter à chaque fois, d'encadrer tout ça pour que ce soit fait de manière précise, à savoir qu'il y a des moments où on abuse, des moments où effectivement il y a des cas d'urgence. Je pense que le problème reste toujours le même, on n'a plus les moyens de l'encadrer, il va falloir déléguer à des services privés. On en parlait d'ailleurs en antenne tout à l'heure, on disait que il y a peut-être un moment il va falloir mettre un peu de libéralisme dedans parce que l'État ne peut pas tout faire, parce qu'il n'a pas les moyens et surtout il n'a pas l'efficacité.
La solution est européenne, pour une fois, mais une vraie solution, je dirais, de fermeté et de répression. C'est-à-dire que si on avait un dialogue réel et pas je dirais, paternaliste avec les Italiens. On pourrait dire que voilà, il y a certaines zones, bon, de la Sicile par exemple, qui sont d'une manière européenne organisée pour recevoir tous les afflux de migrants et renvoyer tous ceux qui ne... C'est-à-dire 99%, d'accord, ouais. Tous ceux qui ne peuvent justifier de rien. Toutes les barcasses qui arrivent, c'est rempli à quasi 100%, non pas de réfugiés politiques, mais de gens qui viennent soit pour tenter leur chance au mieux, soit pour bénéficier d'aides en tout genre. Eh bien, ces gens-là, il faut les repousser immédiatement et le problème ne serait plus là.
Ce qu'il faut bien mesurer.
Donc là, on est dans la, effectivement dans la demi-mesure et la démesure en même temps.
Sûr qu'il
mais l'humanitaire, et dans la démagogie.
L'humanitaire n'a pas de prix, mais il a un vrai coût. Il faut accepter à un moment donné de poser les choses, surtout qu'il y a des situations en France qui méritent aussi qu'on s'en occupe.
Bien sûr.
Et qu'à un moment donné, la course à l'infini, en la matière, c'est pas possible. Prenez juste un exemple. Il y avait ce bateau il y a 15 jours qui a tourné en rond pendant 3 semaines. Finalement, on a accepté de prendre 150 migrants. Je prends juste ce chiffre.
En France,
150.
Sur 300, mais 50%.
Ok, mais ça, bon, ça, on peut débattre du chiffre. Mais regardez simplement, vous dites, pendant un an, en tout cas, on est sûr d'une chose, ils ne feront rien en termes de production, de travail, etc. Au moins un an. Quand je dis un an, je suis plutôt gentil. Vous mettez 10 000 euros derrière chacun, parce qu'il va bien falloir les loger, on les loge, ça, ils payent rien. On leur donne des aides, on les soigne, etc. Rien que sur un an, ça fait 1,5 million d'euros pour 150 personnes. Et je pense que le coût est supérieur à ça.
Donc, à un
moment donné, voilà, est-ce que c'est tenable ? C'est juste la question qu'on doit poser. Et on doit la poser parce qu'en plus, la promesse de valeur apportée par ces gens-là, quelle est-elle ? Ils viennent participer d'un projet national, ouais, je peux émettre un des doutes, améliorer notre diversité, oui, pourquoi pas, mais est-ce qu'on en a besoin d'aller encore plus loin ? Et quel est le rapport de richesse ? Est-ce qu'ils viennent au pays, comme on dit, en apportant un peu d'argent pour créer une entreprise ? Ils n'apportent rien. Non, mais oui, mais bon, sauf qu'à un moment donné, on sait bien qu'on continue à partager le gâteau de manière plus... Je suis d'accord avec ça, mais je comprends qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec ça.
On a Christian en ligne, on a un auditeur avec nous. Bonjour Christian.
Bonjour. Oui, je suis très très content de passer, dites donc. Je passe de temps en temps chez vous, mais cette fois-ci, plus que content, parce que je vais vous expliquer quelque chose. On parle des gens qu'on aura le bol, parce que les émigrés touchent ceci, touchent cela. Eh bien, moi, je suis concerné par une chose dont on n'a pas parlé ce matin. Je suis obligé de changer une prothèse dentaire, n'est-ce pas ? Puisque j'ai vieilli et ça ne correspond plus pour ma santé, donc je suis obligé. Donc je viens de passer chez mon dentiste, n'est-ce pas ? Et j'ai donc une mutuelle, hein, évidemment, qui correspond à peu près par rapport à ce que je gagne à ma retraite. Donc j'ai le minimum, puisque je ne peux pas en prendre une plus chère. Donc je vais vous dire en deux secondes. Hein. Voilà, alors mon montant est de 1595 euros, n'est-ce pas ? Pour avoir mes 5 dents, n'est-ce pas ? Donc, ma sécurité sociale me rembourse 301 euros, d'accord ? Ma mutuelle, elle, me rembourse 430 euros. Sur 1595, à ma charge, j'ai 995 euros à payer. Je ne peux pas les payer puisque ça représente pratiquement un mois de ma retraite.
Bien sûr.
Tout le monde est aidé. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, Sud Radio, me mettre une cagnotte en ligne ? Est-ce que je dois me déclarer comme émigré à ma mairie ? Qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir me soigner normalement, puisque je ne peux pas me soigner ? Nulle part, je me suis renseigné partout, je m'assois sur mes dents. C'est-à-dire que je ne peux pas.
Ben oui, j'ai eu le cas hier de quelqu'un de proche qui, pour une opération de la cataracte aussi, on lui a fait un devis à 900 euros par œil, donc qu'il ne peut pas payer. Donc comment on fait ?
Et pourtant, M. Macron avait dit, le reste à charge sera pris en compte par les mutuelles, ce qui est totalement faux. Je ne vais pas dire ce que fait ma femme, mais enfin, c'est à peu près dans la même partie. Aujourd'hui, on veut mettre son système de retraite, qui paye très cher et qui est excédentaire, dans le pot commun. Il y a des charges absolument colossales. Donc tout ça, il y a beaucoup de mensonges, mais effectivement, les gens qui veulent se faire rembourser des lunettes ou se faire rembourser des...
Mais là, Emmanuel Macron a réussi d'une certaine manière son coup, c'est-à-dire que quand il annonce qu'il va réformer l'AME, ça résonne chez les gens, les plus pauvres, qui se disent, oui, il a raison.
Sauf qu'un
membre du gouvernement parmi les plus proches d'Emmanuel Macron confiait hier, si on constate des pratiques vraiment hors cadre, on ajustera, mais pas question de toucher au principe de l'AME, rien n'est tranché. Et donc,
pendant ce temps-là, on ne parle pas du déficit, toute chose bien plus grande.
Voilà.
Et on est dans la communication.
Allez, merci à tous les quatre. Merci à vous, auditeurs de Sud Radio. Dans un instant, André Berkoff, qui, à mon avis, va s'énerver sur le sujet. Restez avec nous. Restez avec nous sur Sud Radio. À tout de suite.